Quand il y a autant d'enjeux, que l'erreur n'est plus une option, quand son destin se joue en deux matchs, qu'il ne reste plus que quelques marches à gravir pour atteindre le sommet de l'Europe, le football devient encore plus intense. Retrouvez les demi-finales de l'UEFA Champions League avec Bayern, Real Madrid demain à 21h sur Canal Plus Foot et Dortmund, Paris SG mercredi à 21h sur Canal Plus et Canal Plus Foot. Rendez-vous sur boutique.canalplus.com.
Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h07 de retour dans les grandes gueules du sport. Votre rendez-vous le samedi, le dimanche de 9h30 à midi avec ce matin Pascal Duprat, Marc Madiot, Fred Weiss, Christophe Cessieux. Une équipe très bien réveillée. Je vous conseille d'aller écouter en podcast un petit peu plus tard dans la journée notre premier débat sur le 15 de France. C'était à 9h30. Dans quelques instants, l'écurie Red Bull va-t-elle imploser? Ce sera notre bras de fer. On verra s'il y a du soleil. Voici la réponse de Luis Enrique quand on lui demande si Kylian Mbappé jouera à 13h aujourd'hui face à Reims. La com du coach espagnol vous plaît-elle? Ce sera la punchline à 10h30. Et puis Jean-Louis Gasset a-t-il un avenir à l'OM? 4 matchs, 4 victoires depuis son arrivée. Nous nous poserons la question à partir de 11h. Et puis forcément, nous sommes dimanche, il y a Christophe Cessieux. C'était mieux avant. Spécial Jeux Olympiques depuis janvier. Ça revient, c'est extraordinaire. Christophe, ce sera quoi le « c'était mieux avant » d'aujourd'hui?
C'était mieux avant d'aujourd'hui, eh bien, on va parler d'un garçon que personne d'entre nous n'a connu, nos pères, nos grands-pères peut-être, nos grands-mères. Il s'appelait Émile Zatopek. Tu as connu Émile Zatopek?
Bien sûr.
La locomotive tchèque a été le plus grand coureur, sans doute l'un des plus grands coureurs de l'histoire. Et il a une histoire incroyable parce qu'après avoir été un athlète, il a été aussi mis en prison parce qu'il n'était plus dans la ligne indiquée par le parti communiste tchèque. Et je vais vous raconter son histoire.
11h45, c'était mieux avant avec Christophe Cessieux. Alors ce week-end, un magnifique cadeau à vous faire gagner dans cette émission. Vous pouvez remporter le maillot de rugby sport d'époque. Vous savez, je l'ai montré hier, je l'ai même offert à mon ami Christophe, le tout premier maillot France 1910 de l'équipe de France de rugby, celui avec lequel les Bleus ont joué le premier tournoi des 4 nations. Pour remporter ce maillot sport d'époque, vous envoyez maintenant Bleu au 7-32-16. Bleu au 7-32-16. Le grand gagnant sera avec nous en direct dans cette émission. Allez, tout de suite, Red Bull se brûle les ailes.
RMC, le bras de fer GG.
Verstappen qui a dominé de la tête et des épaules ce Grand Prix comme il l'avait fait lors du premier. Ce sera donc la deuxième victoire de la saison 2024, la 56e de sa carrière de pilote de Formule 1, la 115e de l'équipe Red Bull et le 30e doublé puisque c'est Perez qui va terminer deuxième à 8 secondes et demie exactement.
Et oui, Supermax, évidemment, c'était hier sur RMC, vous l'avez vécu en direct avec les commentaires, comme d'habitude, de Jean-Luc Roy, qui est avec nous ce matin dans les grandes gueules du sport. Bonjour Jean-Luc.
Oui, salut JC, Christophe, Fred, Marc, Pascal et bonjour à tous.
Bonjour, bonjour. Merci d'être avec nous.
Salut mon
Jean-Luc. Évidemment, tes lumières seront précieuses pour notre débat ce matin. Alors les Grands Prix se suivent et se ressemblent depuis le début de la saison. Sur la piste, Max Verstappen gagne, deuxième succès en deux Grands Prix pour le champion du monde en titre. En coulisses, l'affaire Horner ne retombe pas, la guerre continue entre papa Verstappen et Christian Horner. Il y a une semaine, Jos Verstappen réclamait même la tête du patron de Red Bull sous peine de faire exploser l'équipe. Notre débat, l'écurie Red Bull va-t-elle imploser? Dans le coin gauche, la team, oui, oh oui, c'est possible. Marc Madiot, et il est tout seul.
Dans le il n'est pas avec Pascal Duprat. Pipo et Bimbo ne sont pas associés là sur ce coup-là.
Mais Fred, s'il te plaît, tu ne vas pas emboîter le pas de Christophe.
Mais je suis d'accord avec lui aujourd'hui.
Non, tu ne vas pas te fourvoyer, voyons.
Dans le coin droit, la team, non. Vous l'avez bien compris, ils sont trois. Christophe Cessieux, Fred Weiss, Pascal Duprat. Avant de débattre, on va retrouver notre journaliste RMC Sport, Arnaud Valadon. Bonjour Arnaud.
Salut les GG.
Alors explique-nous tout ça, c'est vrai que le cirque continue chez Red Bull.
Ah, c'est le feuilleton plus belle la grille, tout part d'accusations de comportement inapproprié de Christian Horner envers sa secrétaire. Dans une enquête interne peu avant le Grand Prix de Bahreïn la semaine dernière, Red Bull a blanchi le patron de l'écurie, mais cela n'a pas éteint l'incendie. En réalité, c'est une écurie qui se déchire entre deux camps. Pour comprendre, Red Bull est une entreprise autrichienne, d'une part avec son cofondateur Dietrich Mateschitz, décédé en 2022 et très impliqué dans le sport, mais Red Bull est aussi à moitié thaïlandais avec l'autre fondateur, Chelsea Léo Yodiva. Ce qui donne aujourd'hui, d'un côté, le clan Horner, soutenu par la famille thaïlandaise qui est majoritaire en termes de parts, et de l'autre côté, le clan autrichien avec Helmut Marko, le conseiller spécial, Jos Verstappen, le père de Max, et le pilote lui-même très lié à Marko. Marko, justement, visé lui aussi par une enquête interne pour avoir fait fuiter des infos dans la presse. La bataille se poursuit donc. Le père de Verstappen, très bavard et aussi soupçonné d'avoir une relation avec la secrétaire de Christian Horner, en a rajouté une couche auprès du Daily Mail ce week-end. J'ai dit que c'était une mauvaise chose, Horner reste. Toute cette situation n'est vraiment pas bonne pour l'équipe. Tout ce qui se passe a une influence sur Max. Hier, Horner a répliqué sur Sky Sports F1. Nous sommes une équipe et aucun individu n'est plus grand que l'équipe. Max est un membre important, un pilote formidable, mais chacun a un rôle à jouer. C'est donc une vraie lutte de pouvoir en interne. Verstappen a un contrat jusqu'en 2028 avec, selon les rumeurs, des clauses de départ, notamment si Helmut Marko s'en va. Si pour cette année les conséquences sportives pourraient être très limitées, des départs d'ingénieurs ou de directeurs techniques ne sont pas à exclure, alors qu'il faut concevoir la voiture de 2026 avec une nouvelle réglementation moteur, châssis et aérodynamique.
Merci Arnaud Valadon pour toutes ces précisions. L'écurie Red Bull va-t-elle imploser ? Nous vous avons posé cette question sur le compte Twitter des Grandes Gueules du Sport. Pour l'instant, c'est non à 64%, oui 36%. Marc Madio, tu es tout seul, mais peut-être avec Jean-Luc Roy en appui dans quelques instants.
Je le pense.
Marc, pourquoi oui ?
Pourquoi oui ? Tout simplement parce que... déjà, je voudrais dire une petite aparté. Netflix n'a pas besoin de réécrire l'histoire. Ils vont avoir de quoi s'alimenter dans les prochaines semaines et les prochains mois. Pourquoi tout simplement que ça peut exploser ? Tout simplement parce que l'histoire du sport, l'histoire de la société fait qu'on vit par cycle, par période. Et là, en ce moment, on est dans la période de domination de Red Bull. Mais si la situation perdure et elle risque de perdurer ou de laisser des traces, ça peut provoquer un retournement de situation dans le rapport de force que nous avons en ce moment en Formule 1. Et c'est dans la logique et dans... l'habitude des choses. Il y a eu la période Mercedes, aujourd'hui on a la période Red Bull, et demain on aura peut-être à nouveau la période Ferrari qui s'annonce, parce que Ferrari essaie de profiter de la situation pour récupérer les meilleurs ingénieurs de Red Bull, et pourquoi pas Helmut Marko au passage si Verstappen venait peut-être un jour à aller chez Ferrari. Donc vous voyez, il y a plein de suppositions, de supputations, et moi je crois qu'on est, oui, on peut très bien être en fin de période Red Bull, c'est pas inéluctable, c'est même très possible.
Ok, fin de période et début d'une nouvelle ère, en tout cas, évidemment. Si l'écurie Red Bull n'arrive pas à régler ce problème. Qui veut réagir ? Qui veut répondre ? Fred Weiss.
Pour moi, la constante dans le sport, c'est le résultat. Donc déjà, tant qu'il y aura des résultats, effectivement, ça ne va pas bouger. Il ne va rien se passer du tout, parce que Verstappen, c'est juste une machine.
Ça peut durer l'année.
Passé. Hier, il a encore dominé, il a encore été le meilleur. Il n'y a aucun problème par rapport à ça.
Bah, le papa Verstappen dit ça a une influence sur mon fils.
Oui, ça se voit d'ailleurs sur ses résultats. Il conduit beaucoup moins bien depuis. Mais alors, concrètement, comme je disais, dans le sport, la constante, c'est le résultat. Tant qu'il y aura un résultat, pour moi, il n'y a aucune chance que ça saute. Mais en plus, après...
Et ça peut sauter en fin d'année.
Après, Yodivia, le sponsor thaïlandais, enfin, celui qui a les parts...
L'actionnaire,
voilà, merci. L'actionnaire thaïlandais, il n'est pas fou. Tu perds Verstappen, t'es mort. Donc déjà, ils ont annoncé Helmut Marko, il est venu, il a dit non, mais finalement c'est arrangé, il y a un petit arrangement entre amis, je vais rester. Donc on savait que la décision de Verstappen était dépendante de Marko. Donc Marko, déjà, il est revenu directement, donc ils se sont déjà arrangés, il y a déjà eu des solutions trouvées pour dire que Marko était revenu. Lui aussi, il est dans un discours pour tempérer un petit peu tout ce qui se passe. Moi, je vois pas pourquoi ça va exploser. Oui, il va y avoir des remous. Peut-être que Horner va sauter. Mais pour moi, c'est le pire qui puisse se passer. Vraiment. Il va rien se passer. Ça se passe bien. Verstappen est le meilleur. Marko reste. On lui donne ce qu'il veut.
Alonso à la place de Verstappen.
Ça veut dire
Alonso est en fin de contrat.
Imaginons, ouais, mais ça voudrait dire que Verstappen s'en va.
Encore
faut-il qu'il parte. Mais tu penses que Verstappen il va s'en aller.
Il va rester.
Oui, c'est possible.
Verstappen va rester si Marko reste, c'est sûr.
Christophe, c'est sûr.
Et alors, on fait quoi de Horner ?
Et on fait quoi de papa Verstappen ?
Il fait partie de ceux qui vont soit se taire, soit partir. Parce qu'encore une fois, l'actionnaire majoritaire va se dire à un moment que sa poule aux œufs d'or, c'est pas Horner. Il s'en fout. Alors pour l'instant, il le soutient évidemment.
C'est lui qui gère la structure. C'est lui qui dirige le truc.
Je suis d'accord,
cette équipe marche depuis qu'il est là. Cette équipe n'a pas arrêté de progresser.
D'accord. Sauf
donc
que le pilote,
évidemment, il a un pilote, mais enfin.
Avec cette bagnole-là,
tu mets n'importe quel pilote. Même Jean-Luc Roy, il gagne le Grand Prix avec la pilote, avec cette voiture-là. Pérez, il est deuxième. deuxième chaque fois derrière Verstappen. Donc au bout d'un moment, évidemment, c'est le meilleur pilote. Mais au bout d'un moment, il faut surtout qu'ils arrangent leurs histoires de cul, parce que c'est une histoire de fesses. C'est une histoire de fesses. Cette histoire
entre Jacques Verstappen et
Christian Horner. Ils sont. Jean-Luc Roy a tenté de m'expliquer hier l'histoire, mais c'est un truc complètement dingue. Là, on a l'impression.
J'ai dû faire un tableau pour comprendre exactement ce qui aurait été les relations des uns avec les autres. C'était un truc complètement fou.
C'est complètement dingue. Donc tant que il y aura cette histoire de cette amoureuse en commun, en quelque sorte, eh ben on ne résoudra rien.
Donc c'est elle qui va décider, en fait.
Eh ben je sais pas si elle part avec Joss ou si elle part avec Horner ou.
Vu qu'elle a accusé Horner de l'avoir harcelé, je suis pas sûr qu'elle parte avec Horner.
Avant d'écouter, tu as interpellé Jean-Luc Roy, avant d'écouter Pascal Duprat, justement sur cette histoire. Notre débat, c'est l'écurie Red Bull va-t-elle imploser ? Mais tu peux évidemment nous donner quelques informations sur cette histoire assez hallucinante dans la plus grande écurie actuellement.
Il a toutes les billes, Jean-Luc. T'inquiète là-dessus, il est au top.
Bon, il t'a bien vendu. Hein, vas-y, Jean-Luc.
Bon, maintenant, je suis obligé de tout vous dire. Hein. Vous êtes assis, là. Donc, le fameux Jos Verstappen, il a 52 ans, il a 107 Grands Prix au compteur entre 1994 et 2003. Son meilleur classement, c'est 3e, ce qui est tout à fait honorable. Et il est parti 6e sur la grille, il a terminé 10e en 1994 et il a signé 2 podiums. Voilà pour le sportif. Alors, pour le reste, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus lourd. Alors, on va commencer par le fait, mais ça arrive à d'autres, hein. Il a été marié 3 fois, il a 5 enfants, dont Max, naturellement. En 98, il y a eu une bagarre avec le papa d'un des rivaux de Max Verstappen. Il lui a foutu, soyons clairs, son poing dans la gueule. Il lui a pété la mâchoire. Donc, du coup, il a été reconnu coupable et il a été interdit de circuit pendant 5 ans. En 2008, il a eu 3 mois de suspension et on l'a obligé à rester à l'écart de Sophie Kumpen. Sophie Kumpen, c'est une très très bonne cartwoman belge et c'est surtout la maman de Max Verstappen. En novembre 2011, alors là, il a dit que ça n'était pas vrai, mais enfin, il a quand même agressé une jeune personne de 24 ans dans son hôtel à Venlo en Hollande. C'était une de ses anciennes copines. En janvier 2012, il a été arrêté pour tentative de meurtre parce qu'il a, avec sa voiture, il a tenté d'écraser une autre jeune fille, ex-jeune fille, en Hollande, toujours du côté de Roermond. Il a été relâché après quand même 2 semaines de tôle. Hein. Il est parti à la tôle, en tôle. Voilà pour le palmarès du papa sur la piste et en dehors. Et puis je dirais que bon, bah des papas abusifs, relations toxiques, etc. Bien sûr, il n'y en a pas du tout dans le tennis, voire les sœurs Williams. Il n'y en a pas du tout avec Tsitsipas, la maman de Mbappé, Nelson Piquet, pour revenir à la Formule 1 avec Nelson Piquet Junior. Bon, alors, est-ce que la question, j'y reviens, ou j'y arrive plutôt, est-ce que l'écurie peut imploser ? Alors, à cause de ça, non, je n'y crois pas, parce qu'effectivement, c'est une histoire sordide. Je parlais au début de fond de caniveau, maintenant on est ces fonds d'égout ou fonds de bidet, comme vous voulez. Le résultat est le même, c'est-à-dire qu'il y a eu en F1, alors là, je peux vous en raconter pas mal, mais là, il va falloir peut-être prendre des précautions, que deux personnages de la Formule 1 soient battus pour la même fille, c'est arrivé, ça arrivera à nouveau. Est-ce que ça a eu des conséquences au niveau du championnat, du déroulement du championnat mondial ? Je ne pense pas. Là, très honnêtement, je ne pense pas. Donc, que l'équipe Red Bull, pour appuyer ce qu'évoquait il y a un instant Marc, puisse être sur une fin de cycle, ça n'en prend pas la tournure pour le moment, mais ça peut arriver. Il est évident qu'après une telle domination, après 3 saisons, a priori la 4e est très bien partie, on arrive toujours à une fin de cycle. Et donc, effectivement, l'équipe Red Bull peut marcher un petit peu moins bien. Maintenant, est-ce que c'est à cause de cette histoire qu'elle va fonctionner un peu moins bien ? Je n'y crois pas. Puis il y a un personnage que vous n'avez pas évoqué, et vous savez que je l'adore, et pour moi il est absolument fondamental dans tout le rendement de l'écurie, c'est Adrian Newey. Adrian Newey, c'est l'ingénieur en chef. Ouais.
Le c'est lui qui a les clés du camion.
Exactement. Et donc lui, il travaille en amont, bien sûr. C'est lui avec Pierre Vacher. Pierre Vacher qui est un ingénieur français. Ce sont les deux têtes pensantes et les deux concepteurs pour l'écurie des futures monoplaces. Donc là, évidemment, ils sont déjà en train de travailler. Tout à l'heure, on évoquait la saison 2026 et la nouvelle réglementation.
Mais bah, lui, il est plutôt dans l'équipe, excuse-moi de t'interrompre, il est plutôt dans l'équipe Verstappen, lui. On est d'accord, il est plutôt dans ce groupe-là, de ce collectif, et plutôt avec Verstappen qu'avec Horner. Enfin, de ce que j'ai cru comprendre.
C'est un type fondamentalement honnête, Adrian Newey, qui a des rapports formidables avec Max, parce qu'il sait, lui qui a côtoyé les plus grands pilotes du monde, hein, c'est de mémoire, je crois qu'il a plus plus que contribué à 14 titres de champion du monde pour 3 équipes différentes. Donc c'est vraiment une clé. Maintenant, il a de mémoire, il a 68 ans, Adrian Newey. Lui aussi, il va arriver forcément tôt ou tard en fin de cycle parce que c'est une vie de fou hein, qu'il mène en Formule 1, surtout avec 24 Grands Prix par saison, vous imaginez bien, plus tout le travail en amont. Donc oui, probablement, tôt ou tard, l'équipe Red Bull, effectivement, va connaître moins de résultats. Est-ce que c'est à cause de cette histoire? Si c'est ça la question,
ça, je ne crois pas. Ok. Voilà, Pascal Duprat, tu es un peu sur la même ligne.
Très difficile de prendre la parole après Jean-Luc. Merci pour cet exposé.
Tu me gênes.
Non, absolument génial. Non, donc, histoire de cul, si j'ai bien compris. Oui. Moi, je vois juste une chose. Pour moi, la clé, en tout cas pour l'hégémonie durable de Red Bull, c'est le pilote, c'est Verstappen. Je pense pas que Verstappen soit suffisamment sot pour quitter Red Bull dès l'année prochaine, pour aller chez Mercedes, par exemple. Même si Toto Wolff, il va lui faire les yeux doux. Il m'étonnerait fort qu'il parte. Parce que là, peut-être que Jean-Luc, tu peux confirmer ce que Christophe a dit tout à l'heure. Il me semble que la Red Bull est tellement au-dessus du lot que tu mets n'importe quel des pilotes du paddock et il finirait premier avec une Red Bull. Donc Verstappen, ça, il le sait. Et il a envie de gagner et il a envie de battre des records. Donc c'est la bonne place à être en ce moment. The place to be, c'est Red Bull pour le champion qu'il est. En deux mots,
t'es d'accord avec ça ou pas, Jean-Luc?
Oui, bah bien sûr, c'est un champion, effectivement.
Lui, non mais ça oui, mais est-ce que forcément tu mets Esteban Ocon, pardon pour lui, chez Red Bull, bah il gagne.
Ben, oui, c'est un très bon pilote, il fera d'excellents résultats. Est-ce qu'il a l'étoffe d'un triple déjà champion du monde et peut-être bientôt d'un quadruple? Je ne le sais pas, et lui non plus d'ailleurs. Parce qu'effectivement, il y a une corrélation très étroite entre la machine. Tout est vrai, c'est-à-dire que oui, si on met un pilote moyen dans une excellente machine, je vais être un peu méchant avec Pérez, il peut terminer potentiellement deuxième. Est-ce qu'il va remporter toutes les courses? Non, parce que dans ce cas-là, il faut être le meilleur pilote dans la meilleure voiture et la meilleure écurie. C'est ça la difficulté de la Formule 1. Il faut tout réunir. Et je pense que Max, qui est un sportif avant tout, il est très gêné par cette affaire. Il a dit, bah oui, c'est mon père, je le respecte.
Il serait peut-être temps un peu, Jean-Luc, que notre ami Max coupe le cordon ombilical avec ce père qui, me semble-t-il, a fait beaucoup pour la carrière de Max. Hein, il l'a mis dans le kart, il savait à peine marcher, il était déjà dans un kart. Mais il a une relation toxique avec tous les gens qui l'entoure et notamment avec Max. Max Verstappen aujourd'hui a 27 ans, il est triple champion du monde. Est-ce qu'à un moment il faut pas qu'il mette un coup de couteau là dans le cordon ombilical?
Horner, en conférence de presse en fin de semaine. Hein,
franchement, non, mais ce Max, mec c'est qui dégage là, Joss, qu'il aille s'occuper de ses copines en Hollande là et qu'il laisse.
Il y a un autre élément qu'on peut peut-être prendre aussi en considération. Et Jean-Luc, je vais te poser la question. Est-ce que tu penses que la famille Piquet joue un rôle dans tout cela? On sait que Max est en couple avec la fille Piquet.
Très bonne question.
Pourquoi pas si
on s'intéresse au paddock, et tu sais, c'est par analogie, c'est quand même facile de le dire. Tu as raison, Marc, effectivement. Non, je ne crois pas directement, même si, alors en voilà un autre que je respecte.
Nelson Piquet, c'est pas mal quand même.
Le père, on se souvient quand même.
Le beau-père, en fait.
Par lui que le scandale avait éclaté quand Nelson Piquet Jr. sont dans l'affaire du Singapour Gate qu'on l'avait envoyé dans le mur à l'époque Briator, vous en souvenez quand même?
Oui, bien sûr.
Ce qui avait permis alors c'était 2007 de mémoire, ce qui avait coûté sa place quand même en Formule 1 à Flavio Briator, puisque ça avait été confirmé, c'était avéré, on l'avait mis dans le mur pour permettre à Alonso, qui venait de s'arrêter au stand pour changer de pneumatique, de repartir devant tout le monde, puisque les autres, lors de la neutralisation après l'accident de Piquet Junior, avait été obligé de repasser par la voie des cendres. Bon,
si ma mémoire est bonne, ça a coûté un titre de champion du monde à Massa.
Alors, c'est la question.
On va partir sur l'histoire.
Tu as une très bonne mémoire, Marc. Alors, sinon, il y a d'ailleurs un débat juridique, puisque Massa s'est réveillé 15 ans plus tard en disant « Mais c'est moi qui aurais dû être champion du monde ». Alors, là aussi, je vais te dire, si on refait les championnats du monde depuis 1950, il y a un certain nombre de champions qui vont perdre leur titre, ça, très honnêtement.
Ok.
Pour ne pas parler de Senna et Prost à Suzuka, vous en rappelez, dans les deux sens.
Et on ne va pas en parler. Tu as bien raison, mais on ne va pas en parler parce que là, on est un peu pris par le temps. Merci beaucoup, Jean-Luc, d'avoir été avec nous. Oui, c'est dommage. Mais vous ferez ça dans le podcast, parce qu'il y a un podcast, maintenant, Formule 1.
Comment il s'appelle votre podcast, Jean-Luc ?
Eh ben, il s'appelle, ça tombe bien, il s'appelle Paddock F1, donc tu vois, on est en plein dedans. On est en plein dedans. On va tirer les couvertures à nous d'ailleurs.
Le Paddock RMC, c'est à suivre évidemment sur rmcsport.fr, sur les différentes applications. Marc Madiou a gagné un petit pourcentage.
Merci.
Bravo, l'écurie Red Bull va-t-il imploser? Nous terminons à 37%. Ah, oui, 63% non, vous êtes
Et Pascal, est-ce qu'il est revenu dans mon camp, Pascal?
Non, non, pas du tout, Marc.
Oh,
non,
franchement. Non, bien tenté, Marc, j'ai beaucoup aimé.
Pipo et Bimbo,
séparation. Non, mais pas sur ce coup-là, pas sur ce coup-là, c'est impossible.
Pas sur ce coup-là, mais dans quelques instants, on parle de Luis Enrique, de sa communication.
Ben oui, Christophe est aux anges. Mbappé de retour, Christophe est aux anges.
Allez, à tout de suite sur RMC avec un Luis Enrique ironique qui est en conférence de presse. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h30 de retour dans les GG, votre émission le samedi, le dimanche de 9h30 à midi, toujours avec Christophe Cessieux, Marc Madiou, Fred Weiss, Pascal Duprat dans 10 minutes. On s'en fout pas, j'ai beaucoup d'informations à vous donner. J'ai du MMA, j'ai de la Ligue 1, j'ai du rugby et pourquoi pas du vélo. À la Groupama FDJ avec Marc Madiou, il va tout nous dire. Sur quel sujet? Vous verrez, ça sera dans 10 minutes. Jouera pas. Quel sort va réserver Luis Enrique à Kylian Mbappé cet après-midi pour le match face à Reims? C'est à 13h depuis deux rencontres de championnat. Vous le savez, notamment la dernière face à Monaco. Le coach espagnol n'hésite plus à sortir sa star pour préparer l'avenir et la saison prochaine, selon lui. Après son doublé cette semaine en Ligue des Champions, Kylian Mbappé a affirmé qu'il avait bien des problèmes, mais pas avec son entraîneur. Hier, en conférence de presse, la question a été posée à Luis Enrique. Mbappé va-t-il jouer face à Reims? Réponse, c'est la punchline des GG.
RMC, la punchline GG.
Non, je ne lui ai pas demandé quels étaient ses problèmes. Et demain, en fonction du soleil et de la chaleur, nous allons voir ce coup.
En fonction du soleil, on verra si on le fait jouer ou pas. La com de Luis Enrique, est-ce qu'elle vous plaît, oui ou non? Fred Weiss.
De là à me plaire, je sais pas, mais elle me déplaît pas.
Elle te déplaît pas, ok. Marc Madiou.
Oui, elle est amusante.
Oui, amusante. Pascal Duprat.
Oui, elle me plaît.
Elle te plaît. Christophe Cessieux.
Elle n'a aucun intérêt.
Elle n'a aucun intérêt. Est-ce que tu veux prendre la main ou personnel, merci?
Non, personnel, non. Bon, là, j'ai pas. Si vous voulez, je prends la main. Non, mais c'est l'ironie continuelle. Non, mais ce mec-là, il est de toute façon, il est en guerre avec la presse depuis qu'il est né, depuis qu'il a mis un short, et qui plus est, depuis qu'il est footballeur. Donc, il a décidé de se faire les journalistes à chaque fois. Donc, c'est soit je me fous de leur gueule en conférence de presse, comme c'est souvent le cas, soit je leur dis rien, soit je les bâche. Donc voilà, c'est un parti pris. Il a décidé qu'il détestait ces journalistes qui étaient une sous-race pour lui, donc ils se foutent de leur gueule continuellement. Mais non, mais c'est exactement ça.
Moi, j'ai une autre perception.
Chaque semaine, tu le vois, un coup il se fout de l'un, un coup il se fout de l'autre. S'en est pris Alexandre Ruiz la dernière fois. Bon, il a raison de temps en temps parce que l'autre va être très agaçant. Mais bon, voilà quoi. Je veux dire, c'est systématique. Le journaliste ou le mec qui lui pose une question est un ennemi avéré, et l'ennemi, ben, je me fous de sa gueule. Et de toute façon, il n'est pas à mon niveau. Parce que moi, je suis un entraîneur génial. Donc voilà, démerdez-vous avec ça.
Moi, je ne le prends pas dans ce sens-là.
Marc Madiou.
Moi, je ne le prends pas dans ce sens-là. Je le prends dans le sens où Enrique rappelle à sa façon, à sa manière, avec ses mots et avec ses pirouettes, que c'est lui le patron du sportif au PSG. Et Mbappé ou pas Mbappé, c'est lui qui décide. Point barre. Et le fait d'aller sur ce terrain de la météo, c'est un rappel pour dire c'est moi qui décide, c'est moi qui tranche, c'est moi qui mets sur le terrain ou qui ne mets pas sur le terrain pour telle ou telle raison. Et c'est moi qui mène la politique sportive du club.
Moi, c'est pas comme ça que je le comprends. Moi, je le comprends on me pose la question sans arrêt, je vous ai déjà répondu. On prépare la saison prochaine sur les matchs importants, c'est-à-dire la Coupe de France et la Champions League. Mbappé jouera sur l'autre, ça oui. Dépendra et il jouera moins.
Oui, mais c'est moi qui décide.
Oui, mais c'est lui qui décide, mais voilà. C'est surtout. Voilà, en gros, je me fous de vous parce que j'ai plus de réponse à vous apporter. Parce que vu que je vous ai déjà apporté une réponse, pourquoi je continuerai à vous apporter
une réponse? Mais lequel réponse? Il en avait apporté aucune.
De dire qu'il jouera pour la Coupe de France, ouais. Et la Champions League et beaucoup moins sur la Ligue 1. Donc je comprends son positionnement, mais de là à dire que ça me plaît, non. Parce que cette ironie permanente, et c'est là que je rejoins Christophe, cette ironie permanente de dire, OK, en face, c'est un journaliste, c'est mon ennemi. Non, je trouve ça un peu ridicule. Mais par contre, essayer de faire passer le message que poser la question à chaque fois impliquera forcément la même réponse.
Ok, Pascal Duprat.
Ouais, je pense qu'il y a un peu de tout, en fait. Christophe a raison, même si, bon, son corporatisme fait que ça le bug aussi. Non, c'est vrai qu'il, bon, il est cassant, il est méprisant avec les journalistes, mais il est aussi subtil. Après, pour répondre à Marc, alors ça voudrait dire que Luis Enrique, il a attendu la confirmation que Mbappé ne sera plus là la saison prochaine pour exercer son pouvoir et son leadership. Alors
je pense.
À ce moment-là, moi, il baisse alors à ce moment-là dans mon estime. Donc moi, je vois plutôt la chose suivante. Luis Enrique, il peut avoir toute l'attitude pour mettre Mbappé sur le banc de touche parce que il a des idées derrière la tête. Et l'idée principale, c'est que Mbappé soit frais et dispo pour les joutes d'avril et mai pour la Champions League. Donc, je pense que c'est de bon ton qu'il use de cette communication et aussi qu'il fasse en sorte de reposer Mbappé et de le placer au même rang que ses coéquipiers. Ça aussi, ça compte. Mm-hmm. Parce qu'aujourd'hui, Mbappé, quand t'es joueur du PSG, tu dis, tiens, Mbappé, il peut sortir quand même. Il peut être remplacé.
Oui, mais en quoi c'est tout fort, ceci... Pascal, en quoi c'est fort de faire ça maintenant, alors qu'effectivement, tout le monde sait qu'il va partir. C'est beaucoup plus simple. N'importe qui, n'importe quel entraîneur, et je pense que tu l'aurais fait aussi, peut prendre cette décision maintenant. Avant, c'était impossible. S'il était resté au PSG, il était obligé de supporter le fait de faire à la
moi je suis un naïf, alors moi je suis un naïf je pensais que Luis Enrique avait suffisamment les épaules solides pour avant qu'Mbappé annonce qu'il ne restait pas au Paris Saint-Germain, le mettre sur le banc quand Mbappé méritait d'être sur le banc.
Il l'a pas fait.
Donc,
tu n'es pas. Voilà, tu es vraiment naïf. Tu te rends compte toi-même que dans ta question, t'as ta réponse. C'est-à-dire que tu pensais au départ qu'il était capable de le faire. Il l'a pas fait. Donc à partir de là, il le fait maintenant. Quand c'est facile, je suis désolé.
La meilleure chose pour espérer, parce que tous autant que nous sommes, nous espérons que le PSG gagne la Champions League, eh bien c'est que Mbappé communique sur la suite de sa carrière. Ça a libéré Enrique, qui se moque un peu des journalistes, Christophe a raison, qui n'est pas qu'en train que de se moquer, en fait. Que ce que tu dis, c'est vrai, que quand t'es entraîneur, et surtout entraîneur du PSG, qu'on te pose tout le temps la même question, au bout d'un moment, ça doit prendre la tête, ok. Donc Luis Enrique, ça lui prend la tête au même titre que tous les entraîneurs. Chaque fois qu'on les titille sur un sujet qu'ils ont pas envie d'aborder. Non, mais ce qui compte, c'est que Mbappé, eh bien, il va sur le banc aussi de temps à autre maintenant, et c'est bien pour lui aussi. C'est bien parce que ça va. Quand on parlait des rugbyman qui jouent beaucoup, Mbappé, il joue beaucoup, beaucoup. Et le fait qu'il soit sur le banc de temps à autre, ça va lui amener de la fraîcheur.
En fait, il faut le reposer pour l'Euro et pour les Jeux Olympiques. Moi, je dis, c'est très bien. Faites-lui
pour
faire.
La Champions League, Christophe. Avant tout.
On verra si on
la Champions League, ensuite les Jeux Olympiques, ensuite l'Euro et les Jeux Olympiques. Le championnat, on s'en fiche. De toute façon, ils vont le gagner, le PSG, avec ou sans lui. Donc, voilà. Laissons-le un peu à l'herbage. Un peu comme les joueurs de rugby du 15 de France. Ça lui fera du bien.
En tout cas, dans cette communication de Luis Enrique, ça lui donnera forcément raison s'il va loin en Ligue des champions, et s'il se retrouve face à un mur, là, c'est là où tout le monde risque de lui tomber dessus.
Oui, mais Jean-Christophe, quand Mbappé dit « j'ai pas de problème avec mon entraîneur », je pense que c'est vrai. Tout simplement.
Oui, mais
il a accepté le fait d'aller sur le banc.
En fait,
c'est pas de la com.
Est-ce que c'est pas... tu t'en sais rien. En fait, concrètement, Pascal, de l'extérieur, c'est facile de supposer.
Oui, mais c'est
possible. J'ai pas dit que c'était pas vrai. Je dis simplement que ça peut rester de la com aussi, comme Enrique. Et je suis désolé, mais pour revenir à Enrique, mon papa m'a appris une chose. C'est qu'on juge les gens à la façon dont tu dis les plus faibles. Eh ben, je suis désolé. Oui. Avec les plus forts, il faisait pas le malin. Maintenant, Mbappé est affaibli. Il le traite différemment.
Mais tu penses que Mbappé, il est faible, toi?
Les journalistes, entre guillemets, sont plus faibles que lui. Et là, il leur envoie des pics.
C'est pas le sujet Mbappé, c'est le sujet du club.
Moi, je trouve que c'est un peu limite.
Marc.
Moi, je pense que le club a dit maintenant, ça suffit. On remet de l'ordre dans la maison. On n'est plus Mbappé dépendant. Et on décide et on fait ce qu'on a à faire par rapport au bien-être du club. Et si ça arrange l'entraîneur que de mettre au repos de façon fort justifiée Mbappé, on le met au repos et on le fait sortir des matchs quand on n'a plus besoin de lui.
Oui, mais dans sa com, il passe pour un cador. C'est-à-dire que c'est moi qui gère tout. Écoutez-moi, c'est moi qui gère tout. Sauf qu'il gère tout maintenant depuis que
nous, alors.
C'est quand même aussi normal que le club, à travers son entraîneur, reprenne la main.
Mais évidemment, c'est logique, c'est normal. Mais évidemment, c'est la forme que je conteste. C'est pas le fait que ça soit fait. C'est la forme que je conteste.
La forme aujourd'hui, c'est que le club reprend la main. Le mot de la fin, Pascal.
Tu on penses, main, tu penses donc que tous les journalistes sont des.
Il faut quand même.
Pascal.
Tu penses juste que tous les journalistes sont des sots, donc. C'est que oui, copient tout ce qu'Enrique dit. Non, mais tout le monde sait qu'Enrique.
C'est ça. C'est juste qu'ils reçoivent une information qu'ils sont obligés de divulguer. Donc à partir de là, ils sont ni sots ni intelligents. Ils sont dans le factuel. Ils redonnent, la réalité.
Tu peux le dire à Christophe, s'il te plaît.
Ils sont.
Regarde le droit dans les yeux.
Non, mais il est trop costaud. T'inquiète, je vais il peut dire tout ce qu'il veut. Je réagirai pas.
Paye Gérard, c'est à suivre à 13h aujourd'hui sur RMC.
Je vais pas téméraire.
C'est donc à 13h et à partir de midi, nous aurons les compositions d'équipe. Ce sera les paris RMC. On vous donnera évidemment les compositions du Paris Saint-Germain, notamment face à cette équipe de Reims. On se retrouve dans quelques instants pour le zapping des GG. On s'en fout pas. Bon, j'ai plein de choses à vous dire. On va se régaler. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h42, de retour dans les grandes gueules du sport. Votre émission le samedi, le dimanche de 9h30 à midi. À partir de 11h, Jean-Louis Gasset a-t-il un avenir à l'OM? Les GG ne sont pas d'accord. On en débat et soyez présents avec nous au 32-16 supporters marseillais. Nous accueillons Emeric dans cette émission. Bonjour Emeric.
Oui, bonjour.
Est-ce que tu sais pourquoi je t'appelle Emeric?
J'ai une petite idée, ouais.
Vas-y, dis-moi.
Pour le maillot de 1910.
Le maillot sport d'époque de 1910 de l'équipe de France de rugby, le premier maillot porté en 1910 pour le tournoi des 5 nations. Bravo mon cher Emeric, tu remportes ce magnifique maillot. Je l'ai montré hier, Christophe, il est très beau. Hein.
Ah, il est sublime.
Il est très lourd.
Il est un peu lourd, ouais, mais bon voilà.
Près de 500 grammes. Hein.
C'est-à-dire que quand tu jouais sur les terrains comme ça et qu'il pleuvait, tu pesais 2 kilos de plus. Quoi.
T'as les épaules solides, Emeric?
Oui, j'ai les épaules solides.
Bon, on est très heureux de t'offrir ce cadeau. Merci d'avoir été avec nous. Merci de ta fidélité.
Merci à vous.
Tu nous enverras une petite photo, hein?
Exactement.
Promis, tu vas voir. Merci beaucoup et il est fantastique. Merci à Sport d'Époque.
Les grandes gueules du sport sur RMC avec Sport d'Époque. La marque française Chic et Sport qui transmet l'histoire du sport à travers ses collections fabriquées localement. RMC. Le zapping des grandes gueules du sport.
Allez, on s'en fout pas. Tout de suite, des informations à vous donner. L'actualité de ces dernières heures. À vous de me dire si ça vous intéresse ou non. Si tout le monde s'en fout, on zappe l'information. La première à vous donner, c'est du rugby. C'est l'Angleterre qui prive l'Irlande du Grand Chelem. On s'en fout pas. Christophe Cessieux.
Je ne m'en fous pas.
Marc Madiot, on s'en fout pas. Pascal Duprat.
Je m'en fous pas.
Fred Veil.
Je m'en fous pas.
L'Angleterre a donc fait chuter le tenant du titre, l'Irlande, 23-22 lors de cette avant-dernière journée du tournoi des Six Nations. C'était hier à Twickenham avec 3 essais pour l'Angleterre et un drop de Marcus Smith à la sirène. L'Irlande subit sa première défaite contre l'Angleterre depuis 2020 et se voit donc privée d'un deuxième grand chelem d'affilée. Mais évidemment, l'Irlande est toujours en bonne position pour remporter le tournoi des Six Nations avant ce dernier match la semaine prochaine face à l'Écosse. Christophe, il faut le dire, c'est quand même une énorme surprise.
C'est une énorme surprise parce que l'Irlande roulait sur tout le monde et notamment sur l'équipe de France en début de tournoi. L'Irlande avait été privée de demi-finale de Coupe du Monde, battue d'un rien par les All Blacks. L'Irlande est une fantastique machine, mais hier, la machine s'est quelque peu déréglée. On n'a pas reconnu l'équipe d'Irlande en première mi-temps, grâce évidemment à une équipe d'Angleterre qui, elle, a sorti un match du tonnerre. Alors on se demandait si l'équipe d'Angleterre, si la Coupe du Monde réalisé par l'équipe d'Angleterre était une espèce d'illusion, et ben on se rend compte que finalement l'Angleterre a progressé et qu'elle s'affirme de nouveau comme une équipe dominante dans le rugby européen. Il va falloir aller les battre, les Anglais, la semaine prochaine. Il y a déjà ce match cet après-midi et ensuite on les recevra à Lyon. Ce sera le dernier match. On y sera d'ailleurs. Les grandes gueules du sport seront à Lyon le week-end prochain.
Pour le crunch.
Et voilà, et l'Irlande n'est pas encore tout à fait certaine de remporter le tournoi.
Ok, Marc, je voyais que tu voulais prendre la main rapidement.
Oui, je trouve que ça donne de l'intérêt un peu plus fort au match contre l'équipe de France. Moi, c'est dans ce sens-là que je le prends, parce que s'ils sont capables de battre l'Irlande, ça va mettre du piment et ça va permettre de situer pour une fois de manière ferme et forte la vraie évolution de l'équipe de France. Moi, je pense que le vrai tournant, il commence avec le match contre l'Angleterre.
Et il y a eu un autre match hier. Avec le pays. Il y a eu un autre match hier, c'est l'Italie.
Et oui,
qui est allé battre, qui a battu l'Écosse quand même. Oui. Qui a battu l'Écosse. Alors qu'on disait, mais c'est quoi l'équipe la plus tocarde d'Europe qui réussit à faire match nul contre l'équipe de France? Ben voyez, les tocards, ils sont là. Et là aussi, grâce à Gonzalo Quesada, il est en train de former et de forger un groupe. Et l'équipe d'Italie, vraiment, est montée d'un cran durant ce tournoi.
Est-ce que ça revalorise notre match nul contre l'Italie, justement? Parce que c'est la question que je me posais, parce que finalement, tout le monde disait, ouais, l'Italie, c'est loin derrière, etc. Sauf que finalement, ils réussissent à s'imposer.
Tu sais, normalement, on devrait être, en toute logique, on devrait être à trois défaites dans ce tournoi.
Oui, bien sûr.
Il y a eu deux miracles quand même.
Ah bon, les miracles, ça fait plus partie du sport, Christophe.
On peut refaire le débat de tout à l'heure alors.
Mais c'est une équipe extraordinaire.
Tu vois comment tu es là sur ce coup-là.
Alors c'était 9h30. Est-ce que le 15 de France est redevenu une équipe ordinaire et vous n'étiez absolument pas d'accord? Je vous le conseille en podcast. J'avance un peu parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire, les copains. Deuxième information dans le zapping des GG à vous donner, c'est Benoît Saint-Denis qui s'incline face à Dustin Poirier après un chaos énorme. C'est du MMA. C'était cette nuit. On s'en fout, on s'en fout pas. Fred Weiss.
On s'en fout pas.
Marc Madiot.
On s'en fout.
Pascal Duprat.
On s'en fout.
Christophe.
J'ai pas vu le combat, j'ai juste vu le résultat. Tu peux nous raconter ce qui s'est passé?
Je vais vous compter tout ça, les copains. Bien. C'était donc tôt ce matin sur RMC Sport 2. C'était un véritable événement à Miami. Le français Benoît Saint-Denis, qui était encore inconnu il y a quelques années, qui était un ancien des forces spéciales, et qui, comme ça, a gravi les échelons jusqu'à défier. Donc, cette nuit, la légende Dustin Poirier, dans la catégorie des moins de 70 kilos, le français a malheureusement terminé au tapis dans le deuxième round, alors qu'il avait parfaitement débuté son combat, et il voit forcément son ascension vers le titre des poids légers de l'UFC freiné par cette défaite. On va revivre ce moment et ce chaos impressionnant.
Attention à la mi-distance.
Qui continue,
attention
qui maintient
la mi-distance. Attention à la mi-distance.
Oh
attention.
Oh là 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 là.
Et la guillotine derrière.
Faut défendre les mains sur cette guillotine. Montez les mains. Oh non,
il est out. Poirier a gagné par KO au deuxième round. Quel retour de Dustin Poirier. Quel combat.
Quel combat incroyable. Allez voir ça sur rmcsport.fr. Dustin Poirier qui a dit beaucoup de bien du français après la rencontre.
Je l'ai touché quelques fois au début, mais il était vraiment fort. J'ai accepté ce combat parce qu'il a terminé ses 5 derniers adversaires. Ce n'était pas un nom que le monde connaît vraiment parce qu'il est en train de monter, mais il a terminé ses 5 derniers adversaires et il est dangereux. Et j'ai beaucoup de respect pour lui tout en soulignant son état d'esprit, sa détermination. C'est un dur à cuire et s'il choisit de le faire, il reviendra sans aucun doute. Je veux lui rendre hommage, lui témoigner mon respect pour avoir défendu son pays.
Et sur son compte Instagram, Benoît Saint-Denis a livré sa première réaction. Malheureusement, ce soir, je n'ai pas pu pleinement m'exprimer. Mon corps n'a pas suivi. Après une semaine d'antibiotiques pour lutter contre une infection, j'étais présent, mais mon corps absent. Il ne réagissait pas comme d'habitude, mais je reviendrai plus fort. C'était impossible pour moi de ne pas saisir l'opportunité d'un tel combat. Fin de citation. Voilà ce que l'on pouvait vous dire sur ce combat de MMA. C'était donc sur RMC Sport 2. Je reprends la main ou non?
Oui, déjà dire que l'UFC, c'est quelque chose qui... Enfin, le MMA, enfin le peu importe comment on l'appelle, c'est quelque chose qui prend beaucoup d'ampleur. C'est un sport qui est vraiment très à la mode. Alors oui, on peut le considérer violent, mais en tout cas, il est avant il était pas accepté en France. Il l'est accepté maintenant. Il prend une ampleur incroyable. Et aussi dire que BSD, c'est un vrai combattant. Effectivement, pendant un round, il a été très 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 bon. Poirier, il faut quand même savoir qu'il a battu McGregor deux fois. Hein. Donc c'est quand même pas le premier venu.
C'est une légende américaine.
C'est une légende américaine. Sport, ouais. Et il l'a dit lui-même qu'il en a suer des ronds de chapeau pour battre BSD, donc vraiment très bon combat. Alors oui, bien sûr, on aurait préféré la victoire, mais il a trouvé la brèche et c'est comme ça qu'il s'impose, mais c'est de bonne augure pour le reste.
Saint-Denis Poirier, ça fait affiche du championnat de France.
Ouais, c'est ça,
ils ont des bons noms français tous les deux.
Allez, troisième information dans le zapping des GG à vous donner, c'est la pépite de Marc Madiot. C'est Lenny Martinez convoité par une autre écurie. Qu'est-ce que c'est que ce travail? On s'en fout pas, Christophe Cessieux.
Ah bah non, on s'en fout pas.
Marc Madiot, on s'en fout. Bravo Marc, bravo, t'as droit. Pascal Duprat.
On s'en fout pas, mais Marc va nous dire quelques mots.
Ah non, il a plus le droit de parler.
On va faire une entorse à la règle.
Alors, je vous donne les informations. De toute façon, vous allez réagir, ça va forcément le faire réagir. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, la formation Bahrain Victorious pousse pour s'attacher les services dès l'année prochaine de Lenny Martinez, le talentueux grimpeur français de la Groupama FDJ. Il voudrait proposer un contrat de 3 ou de 4 ans. On rappelle que Lenny Martinez est entré dans sa dernière année de contrat. C'est pour ça qu'on parle aussi de possiblement un transfert et qu'il rejoigne une autre écurie. Christophe.
Ben oui, on en parle. Ça bruisse de toutes les rumeurs et moi ça m'inquiète un peu parce que c'est pas le premier français, la première pépite française qui part à l'étranger. Aujourd'hui, on se fait un peu piller. Alors l'avantage et ce qu'a fait Marc, eh ben c'est d'aller justement de faire une pépinière et de sortir ces coureurs. Et on a l'impression qu'on est en train de devenir comme en football, c'est-à-dire qu'on forme les coureurs, on les met en couveuse, on en fait des petits champions. Et une fois que ce sont devenus de petits champions, les grosses écuries, les plus riches, et Bahrain en fait partie, tout comme Ineos, tout comme Visma, tout comme les autres, viennent se servir tranquillement en proposant des contrats, évidemment que les équipes françaises ne sont pas en mesure de proposer. Et c'est pas le premier cas. Il y a d'autres jeunes coureurs français, très bons jeunes coureurs français, Magnier, Laurence, qui eux aussi ont été récupérés par les équipes étrangères. Et je me dis qu'on est en train de se footballiser dans le cyclisme, c'est-à-dire qu'il y aura 4-5 équipes très très riches et les équipes françaises ne serviront que de couveuses pour les grands champions. Et moi, ça m'inquiète.
Oui, mais c'est un peu valable pour tous les sports. Hein. Dans tous les sports,
mais
c'est un peu
ce qui se passe. Mais c'était pas vraiment le cas en vélo.
C'est en train d'évoluer par rapport à ça, parce qu'effectivement, à un moment, tu peux plus lutter financièrement. Les carrières de sportifs sont courtes, donc forcément, ils veulent rentabiliser au maximum leur carrière. Et quand on leur fait un pont en or, alors même s'il y a un attachement, j'ai lu qu'il y avait un vrai attachement là dans ce cas de figure. À un moment,
ouais, il y avait un vrai attachement de Pinot pour Marc et pour la Groupama. Lenny Martinez, je pense qu'il voit plus les dollars qui s'affichent.
Il affiche quand même son attachement. Et je pense qu'il aime vraiment cette écurie et quelque part je pense que ça va lui coûter de partir, mais à un moment quand tu prends les zéros c'est assez logique qu'on réponde présent et que quand on lui propose un contrat de 4 ans avec des sommes incroyables.
Marc,
je te rappelle le règlement.
Non mais moi j'aimerais, si Christophe me laisse un petit espace parce qu'il est très dissert ce matin.
Arrête Pipo, hein.
Vas-y.
Non, ce que je voudrais dire, c'est que j'ai extrêmement confiance au manager de la FDJ Groupama pour que Lenny Martinez ne parte pas tout de suite, parce qu'il faut qu'il fasse encore ses armes à la Groupama FDJ.
Marc,
avant de partir.
Ben, moi, je rappelle le règlement d'abord, j'ai pas le droit de m'exprimer. Et ensuite, le règlement sportif.
Il est sous contrat, tu vas nous dire.
Qui a lieu en ce moment dans le cyclisme. On n'a pas le droit de s'exprimer sur les transferts avant le 1er août.
On revient le 1er août, Marc.
On revient le 1er août.
Ok, allez, tu le gardes. Hein.
On ne peut même pas connaître la teneur des montants des transferts du vélo pour comparer au foot, par exemple.
Ah, on est loin
du foot.
Est-ce
que c'est des sommes astronomiques ou...
On est loin du foot, mais ça monte, ça monte très haut.
D'accord.
Ok.
Enfin, la FDJ, ils ont des sous quand même, ils peuvent s'aligner, non?
Nous avons des moyens intéressants.
Vous faire parler.
Mais après, on n'est pas dans les mêmes situations que certains partenaires ou sponsors ou États qui sont soutenus
par les États. Ouais.
Aujourd'hui dans le cyclisme. Et puis après, on a quand même aussi les lois françaises et l'aspect social qui nous protège dans d'autres professions et d'une manière régulière et cohérente en France avec les charges, la sécurité sociale, les bulletins de salaire, les couvertures sociales et autres. Sauf que quand on se retrouve face à des gens qui sont travailleurs indépendants et quand vous avez en face de vous des adversaires qui ont des budgets quasi illimités et qui ont des moyens de contrat d'image ou de domiciliation de leur sportif.
Ça devient difficile de rivaliser.
Ça devient compliqué pour nous.
Tu luttes contre les États. Bahreïn, c'est un État. UAE, c'est les voilà, Ineos.
Red Bull qui arrive.
Alors Ineos, c'est pas un État.
Ineos, c'est un empire.
C'est un empire.
Oui, mais Red Bull qui arrive aussi.
Ouais.
Ah oui.
Ok. Bon, en tout cas, on a compris que tu ne dis rien aujourd'hui. J'ai une dernière information à vous donner parce que je l'adore.
Il fait la tête, hein, si vous le voyez. Non, mais il n'est pas content.
Non, alors j'ai une dernière information à vous donner.
Oh, t'es pas si détendu que ça.
Écoutez-moi, les copains, s'il vous plaît. C'est en Espagne, c'est du vélo. Là, j'espère que tu vas en parler. C'est 130 abandons dans une course amateur. Oh, on s'en fout pas.
Merci Jean-Christophe d'avoir choisi.
On s'en fout pas, Pascal Duprat.
Ah non, mais moi je m'en fous pas. J'aurais voulu en parler déjà depuis un moment.
Parfait, Marc Madiot.
Je m'en fous pas.
Ok, Christophe.
Pas non plus.
Lors d'une course amateur en Espagne, disputée début mars. Au moment de la course, on annonce qu'à la fin de la course, c'est une course amateur, il y aura un contrôle antidopage. Là, pendant la course, il y a 130 participants sur 182 qui abandonnent. Alors on dit oui, c'est les crevaisons, c'est tout ça. Le troisième de la course, qui est un Espagnol, il a réagi sur Instagram. Il a dit « Contrôle antidopage égale crevaison et abandon. Ce n'est pas une formule mathématique, c'est une pure réalité. Voyons voir si des mesures seront prises. C'est une, pardonnez-moi, putain de blague, c'est ce qu'il dit. D'ailleurs, j'ai réussi le test. C'est la troisième fois que je réussis. » Rapidement, Pascal.
Non, moi, la seule incertitude dans ce cas de figure-là, c'était de connaître combien il y avait de coureurs au départ. C'est juste ce que je veux savoir. 182.
Et 130 d'accord. Abandons.
Ok. Donc ouais, on fait le ratio quoi. Ouais.
Ça fait sourire Marc ou franchement
c'est... non mais franchement c'est ahurissant quoi.
Alors après on a pas bon. Il y a la lecture et le rapport qu'on nous en fait. Je pense qu'il faut peut-être attendre quand même les rapports un peu plus officiels de la situation. J'ai plus envie d'en rigoler qu'autre chose parce que je ne m'attendais pas à un truc de ce genre.
C'était une intoxication alimentaire
ouais,
peut-être.
Ouais, je sais pas.
Il y avait une équipe hollandaise qui avait eu, là c'est une équipe pro, qui pendant un Tour de France avait été victime d'une intoxication parce qu'il y avait tout ça.
C'était une mauvaise conservation d'aliments ou de produits. Mais là c'était factuel.
Ouais.
La chaîne du froid qui a pas été respectée.
Franchement,
là on est dans une course amateur. Si c'est vrai. Si c'est la réalité de ce qu'on dit, 130 qui abandonnent pour raison de dopage, là, c'est catastrophique. Mais après, je pense qu'il faut quand même mesurer.
Mais
il paraît que
les courses amateurs, amateurs se chargent plus que les professionnels. Hein. C'est la rumeur qui dit ça.
Pourquoi pas.
Même les cyclotouristes.
Alors qu'il n'y a pas grand-chose à gagner.
Bon, voilà, on voulait donner cette information pour non pas vous donner le sourire, mais parce que c'était une des informations de la semaine aussi. On se retrouve dans quelques instants pour parler de l'OM. Est-ce que Gasset a un avenir à Marseille? À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.